Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Alors, pour les auditeurs, cette émission étant légèrement modifiée depuis le début de cette année 2015, qui sera peut-être celle du changement important. Ah, nous irons par exemple nous faire voir chez les Grecs, pour recevoir des leçons de démocratie dans un pays qui, il est vrai, l'a inventé. Je m'égare et je résume. Il y a eu un changement de propriétaire dans notre fameuse clinique, avec nos chers docteurs. Vous vous souvenez, dans cette clinique, il y avait Mabuse, House et Jekyll, et puis ils faisaient des tas d'opérations diverses et variées. Ils autopsiaient notre société malade. Mais ils sont, paraît-il, partis à la retraite. Après avoir vendu leur clinique du « je sais tout » à un autre confrère. À peine l'affaire conclue, le nouveau chef de clinique, donc, s'était empressé de nommer la clinique, la nouvelle clinique du « je fais tout ». Alors, c'est le doc Filou. Il est le seul maître à bord dans son établissement. Bon. Dans un premier temps, il a été signalé la présence de rôdeurs autour de l'enceinte du bâtiment. Ce sont soi-disant les Dalton. Mais il se pourrait aussi qu'il s'agisse peut-être, allez savoir, d'autres personnages. Quoi qu'il en soit, les intrus mettent leur grain de sel dans la gestion de la clinique du docteur Filou. Ils le font opus après opus, tous les samedis, à l'heure du déjeuner, sur les ondes de Divergence FM, ou n'importe quand d'ailleurs, en le podcastant si vous voulez les écouter, sur le site de la radio. Aujourd'hui, un sujet pour phosphorer, c'est l'opus numéro 3. Ils pensent donc nous sommes, nous parlerons culture avec nos infatigables fouineurs de service. Allez, au premier.
Allez, bon, tiens, ben, je commence alors, pourquoi pas, quoi. Mais pourquoi diable mon métropolite préféré pensez-vous qu'il faille tout contrôler pour s'inscrire sur la liste des grands hommes, des grands qui font l'histoire ? Mon filou, tu confonds capitaine de navire, autrement appelé Pacha, et pilote de rallye ou de pédalo. Sans copilote pour guider tes pas, point de salut. Certes, mon éminence métropolitaine, ce que l'on nomme vulgairement les gens ont un besoin, un désir de chef, autrement dit de guide. Mais même en sachant cela, il faut savoir raison garder. Dorénavant, et ce depuis le 1er janvier de cette année 2015, la métropole montpelliéraine et méditerranéenne détient l'essentiel des pouvoirs locaux liés à l'organisation et au gouvernement des affaires publiques. Cela recouvre parfaitement le mot « politique ». Cela tient dès lors comme d'une résurrection de la cité grecque, à la mode anglo-saxonne, matinée de Providence, une poignée d'oligarques au mieux, un tyran au pire, s'occupe de tout pour tous, dans tous les domaines publics, y compris celui de la culture. Il pense pour que nous soyons. Soyons. Et soyons. Mais soyons quoi ? Ben, bonne question, merci de l'avoir posée. Mais alors, dans ce contexte-là, qui sont les mentors dont notre métropolite préféré pourrait se prévaloir ? Deux sont nettement sortis du lot au cours du siècle précédent. André Malraux et Jack Lang. L'un tirant le peuple vers la culture de l'élite, tandis que l'autre favorisait la foule qui plongeait dans la culture de masse. Deux pédagogies différentes, opposées. D'un côté, le ravalement de la France pour améliorer la condition humaine en lui offrant un musée imaginaire. De l'autre, la tagisation graphologique des murs et le bruit pour la musique tous les 21 juin, afin de laisser croire aux gens, à tous, qu'ils auraient une âme d'artiste à la mode des muralistes mexicains. Alors, mon éminence, mon filou premier, c'est quoi la culture que tu prétends proposer et imposer aux citoyens électeurs d'ici-bas ? Georges Frêche, en son temps, aidé par un Talvar relayé plus tard par un Delafosse, a œuvré incontestablement dans les deux sens. En même temps, transformant par exemple une salle défaite en salle victoire. mais aussi en multipliant les festivals, qu'ils soient de la danse, de la guitare, du cinéma méditerranéen ou de Radio France. Il a donné les moyens, Renaissant, l'orchestre, l'opéra, il a offert des lieux tels le Corum. Et vous, mon métropolite, que comptez-vous faire d'autre que des actes improbables et pseudo-populaires ? Mon filou, déconne pas. Laisse faire ceux qui savent faire et contente-toi d'impulser juste une direction, un axe, bref, une politique. Allez, je t'embrasse mon grand, et à la semaine prochaine.
Alors, vous avez compris que nos fouineurs ont la langue bien pendue. Et c'est pour ça qu'on est bien content de les avoir sur nos ondes, afin que tout ne se fasse pas dans, disons, dans la... Tout va bien, dormez bien, bravo Jean, on pourrait dire, hein. Dormez bravo Jean. Alors avant de passer la parole à mon deuxième fouineur que j'ai sur le côté là, moi j'ai quand même une interrogation sur la culture. Je croyais que c'était très important à Montpellier, la culture, c'est même une des grandes vitrines. Alors pourquoi l'adjoint à la culture est le 17e sur la liste dans la mairie, 17e dans le rang? Alors, ça me semble quand même énorme. Et sa profession m'a un peu surpris, il se dit chef d'entreprise. C'est curieux. Hein, vous ne trouvez pas une profession et sa position? Alors, il s'appelle en plus, si je ne me trompe pas, Cédric de Saint-Jouan. Il est noble en plus? Bon, à part cette petite...
Pas noble, aristocrate, de l'élite.
Ah oui, oui, oui.
C'est la culture de l'élite.
C'est la culture de l'élite en 17e rang sur la liste des
donc,
adjoints.
Dans la série Malraux, mais alors donc, dans la série... Mais c'est qui le chef? Louis XIV? Oh, mon filou, tu déconnes.
Alors, maintenant que nous avons... On plaisante, hein, si vous nous écoutez, on en plaisante toujours. Hein. Je passe à mon...
Tu te prends pour Drucker?
Oui, un petit peu. Voilà.
Il nous la joue Drucker sur Divergence. Voilà. Non, on plaisante pas, extrêmement sérieux.
Et on est tellement sérieux que je vois un deuxième ancien Dalton filou de service, lui aussi. Hein. Alors, c'est peut-être en fait des sous-filous que nous avons, on ne sait pas. Alors je l'ai à côté de moi, il va vous dire ce qu'il pense de la culture.
Moi je vous dirais tout simplement que... Bah, non, c'est tous les dentistes qui vous le diront. Le lavage des dents prévient les caries et contribue à une bonne haleine. En parallèle, c'est moi qui vous dirai que les lavages de cerveau provoquent des caries aussi et ampuantent les mots. Ah, Philippe Sorel a raison de vouloir interdire le spectacle de Dieudonné. Ou a eu raison. C'est une mesure provisoire de salubrité publique. Il serait plus rassurant cependant que les salles de spectacle de Dieudonné se vident d'elles-mêmes. En quelque sorte, c'est de son public qu'il faut s'interdire. Voilà. Ceci dit, Montpellier, Méditerranée, métropole, c'est très difficile à dire, a une bonne dentition culturelle avec ses infrastructures, médiathèques, musées, lieux d'exposition, salles de spectacle, enseignement artistique, je vais en oublier, planétarium, aquarium, festival, enfin que je passe... Bon.
Oui, oui, on ne va pas faire toute la liste parce que à ce moment-là, l'émission va passer.
Voilà, bon. Enfin, toujours est-il que Montpellier Méditerranée Métropole arbore un très joli sourire culturel. Jusqu'à aujourd'hui, un juste équilibre, mélange de rayonnement culturel, national, international, avec popularisation de la culture et initiation culturelle, a été trouvé. Si la culture est un facteur économique indéniable, je considère que la vocation prioritaire d'un budget culturel reste de nourrir avant toute chose les esprits. C'est pourquoi l'éducation culturelle ne peut se contenter de médiocrité. C'est pour cette raison que j'émettrai un souhait. Ça serait que MMM, c'est plus court.
Ah oui, les trois M.
Ouais. Et la prétention d'investir dans un pôle culturel actif, qui faciliterait l'implantation de créateurs et d'artistes sur son territoire. Ainsi, créer des pôles de découverte, là, je serais accro.
Bon, voilà, eh ben, on donne des axes, en fait. Hein, des axes. Bon, maintenant, nous sommes que des simples citoyens autour d'une table avec des micros. Hein. Bon, alors, je reviens, on va entamer un peu le débat, hein, parce que quand même, il y a de quoi dire. Alors, la culture à Montpellier, c'est vraiment la vitrine. Montpellier, l'agglomération, et maintenant la troisième. C'est comme les trois bandes, là, c'est les troisièmes. C'est très, très important. Est-ce que c'est aussi un moyen de déboucher sur d'autres sujets, comme le tourisme?
Je pense qu'effectivement, sur Montpellier, pour préciser, Montpellier on peut dire quand même que Montpellier a un rayonnement culturel. Montpellier ne souffre pas de la comparaison de beaucoup
d'autres villes
similaires. Donc il y a tout ce qu'il faut à Montpellier pour faire du bon boulot. C'est une évidence.
Si vous me permettez, là je m'adresse à mon autre fouineur là-bas, et à vous aussi d'ailleurs, est-ce que ça va vraiment être la fin de la gabegie et des petits princes de la culture cultureuse? C'est la fin des salaires mirobolants, c'est la fin des copains? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais en même temps c'est très Louis XIVien. Ou gaulliste, comme on veut, mais c'est la même chose. Autrement dit, une poignée, alors sous Louis XIV, de peintres, de musiciens ou autres, et puis sous...
À la cour
voilà, issus de la cour, c'est-à-dire, on parlait au niveau de la maison du roi, ou du palais de l'Élysée, mais ce qui revient à peu près à la même chose.
Ah ben, sous la
et donc, des gens qui vivaient de l'État. Alors... Plus modestement sur Montpellier, d'autres gens vivaient de la ville, enfin, du budget de la ville. Des Koering, des Jean-Claude Fall au niveau théâtre, Koering au niveau de l'orchestre, des Montanari au niveau de la danse, on pourrait multiplier les exemples. Alors, c'est tout le problème, parce qu'en même temps, chacun s'accorde à dire, par exemple pour Koering, que ce fut un grand monsieur, un grand dirigeant au niveau de l'orchestre, et que son remplaçant... Il est beaucoup plus contesté et contestable. Bon, par contre, c'est vrai que quelqu'un comme Fall, au niveau du théâtre des 13 vents, quand on était arrivé à faire du théâtre en finlandais, ça, quand même, fallait le faire. Hein. C'est carrément du n'importe quoi. Il avait qu'à le faire en zimbabwéen aussi, qui parle finlandais à Montpellier, une pièce de théâtre en finlandais.
C'était, comme vous disiez, ce côté élitiste de
la culture. Et voilà, le côté élitiste de la culture. Maintenant, d'un autre côté, quand on a vu après avec Mandrou, etc., où on est tombé dans... alors, c'était les arts dans le quartier, ou les quartiers...
Les AT.
D'abord, le truc monté par Jean-François Rigaudin.
Ancien directeur de notre radio, bien
mais,
sûr.
Mais on donnait dans la culture populaire, mais c'est de la culture à la limite populiste, c'est n'importe quoi. Et ça tient du Jack Lang, de la fête de la musique du 21 juin. Le 21 juin, ce jour-là, tu joues de la musique, content ou pas? C'est pas de la musique, c'est du bruit.
Ouh là là, et alors là...
Je pense qu'effectivement, il reste, et heureusement, la place, effectivement, de faire quelque chose d'intéressant entre les deux.
Parce que fin de la gabegie, vraiment, vous croyez? Fin de la gabegie, non, petit prince de la culture.
J'espère qu'effectivement, moi il me semble qu'effectivement une bonne politique culturelle avec tout ce qu'il y a, ça serait la possibilité de faire venir des gens, enfin des créateurs, pas toujours reconnus dans leur art, mais qui ont un très fort potentiel, voire essayer par exemple que quelques peintres puissent s'installer dans Montpellier, de créer un noyau, comme ça a pu exister dans certaines villes ou dans certains quartiers de certaines capitales.
Et voire même des vulgarisateurs de la chose.
Des vulgarisateurs.
Comme on trouve dans les grands musées parisiens. Tu parles au niveau peinture, par exemple.
Exactement.
Tu te balades à Orsay ou au Louvre, etc., ou à Carnavalet. En tant que spectateur, enfin, que touriste, bon, tu te balades, qui tu vois? Des tableaux, d'accord, mais tu vois surtout des peintres en train de peindre.
Oui, voilà, c'est ça.
Et bien là, je suis allé au musée Flavrois, la semaine dernière.
Mais c'est ce que moi
beau tableau, très beau musée, très beau tout, pas de peintre.
Mais c'est ce que moi j'appelle, si tu veux, créer dans mes propos, dans mon propos précédent, c'est ce que j'appelle créer des pôles culturels actifs.
C'est ce qui était censé être la panacée.
Ce sont des portes de découverte, parce qu'à partir de ce moment-là, le monde ne se contente pas de regarder, entre guillemets, une image, un tableau. Là, à partir de ce moment-là, il peut bénéficier éventuellement d'un contact. C'est vraiment l'initiation. Regarder quelqu'un peindre, c'est aussi éducatif, sinon plus, que de regarder simplement un tableau.
Ou quelqu'un tagué, d'ailleurs, parce qu'on a d'excellents tagueurs dans Montpellier qui sont quand même reconnus.
Ce n'est pas des tagueurs, c'est des graffeurs.
Ouais. Des graffeurs, pardon, excusez-moi.
C'est ce qui est tout à fait graffeurs. Différent.
Oui, ouais.
Le tag, c'est une signature, donc un espèce de truc improbable et tout. Le graffeur qui fait éventuellement même de très beaux dessins,
nous en avions un sur notre vitrine
à l'agence. Ça tient de cette école qu'on appelle le muralisme au Mexique.
Non, mais c'est même y compris, il y a de très beaux trompe-l'œil à Montpellier. Oui, bon, mais le trompe-l'œil, à une époque, c'était ni plus ni moins que ça. En fin de compte, c'était camouflé C'était triché avec, avec l'architecture.
On aura probablement quand même la chance qu'il ne faut pas oublier que notre docteur Filou, c'est un ancien adjoint à la culture aussi.
Oui, il est passé par la culture, enfin, visiblement.
C'était pas son...
De la même façon que Delafosse s'est trouvé de façon improbable à l'urbanisme, on pourrait dire la même chose de notre bon Filou, il s'est trouvé de façon improbable à la culture. Filou, il allait bien à l'urbanisme. Delafosse allait bien à la culture. Et après, il s'ennuie. Mais si on revient à l'objet de la culture, l'utilité, pour faire un peu de, presque de marxisme de base, eh bien, l'utilité au niveau d'une mairie, c'est que ça relève d'un investissement. Tu le disais tout à l'heure. Oui, et un investissement, ça n'a d'intérêt que si l'investissement est rentable.
Il y a un retour.
Il y a un retour sur investissement. Non, ça donne des emplois.
Oui, non, mais
attends. Etc.
Non, moi, personnellement, justement, c'est ce que j'ai dit. C'est justement parce que l'adjoint à la culture et le chef d'entreprise, on ne regarde pas la... À ce moment-là, il va au tourisme. Parce que moi, je dis qu'en fin de compte, regarder la culture sous l'angle d'un bénéfice économique, à partir de ce moment-là, ça s'emprunte davantage au tourisme avec le support de la culture.
Ah, c'est le tourisme, ça s'appelle le tourisme culturel.
Le tourisme culturel. Oui, mais enfin, la priorité de l'adjoint à la culture, ce n'est pas de faire rentrer du pognon par le biais de la culture. C'est avant toute chose, et je le répète,
d'ouvrir.
De nourrir les esprits des concitoyens. Hein. C'est d'abord ça qu'effectivement, si tu payes des impôts sur tes impôts, tu laisses une petite part de tes impôts à la culture, c'est pas pour faire permettre aux commerçants de Montpellier de vendre davantage de
sandwich. Encore faut-il qu'il y ait des fonctionnaires territoriaux capables de faire ça. Et ça, c'est pas certain. Ça.
Ah bah ça, on va leur laisser quand même le temps. Ils viennent d'arriver. On va leur laisser
l'équipe. Non, ils venaient d'arriver au mois de mai, de juin. On est au mois de janvier. Ça va bientôt faire un an qu'ils sont arrivés.
Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai l'impression
qu'il faudrait qu'ils se dépêchent d'arriver avant de partir.
Bah, je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais la clinique, on dirait que certains anciens sont en train de la cerner de près. On se demande s'ils ne vont pas reprendre le pouvoir dans cette clinique depuis les ondes radiophoniques. Alors, donc, dans cette municipalité de Montpellier, la seule artiste, elle s'occupe des écoles.
Et le seul maître, le seul hussard noir de la République s'occupe du tourisme.
Eh oui.
Et celui qui s'occupe de la culture, c'est un chef d'entreprise. Alors là,
c'est comme ça un peu comme dans les gouvernements en général.
C'est l'antipétinisme par excellence, puisque Pétain avait inventé en son temps, à l'époque, la technocratie. C'est-à-dire, je nomme à l'éducation nationale un prof. Voilà. Je nomme aux finances un banquier, je nomme à l'agriculture un paysan, etc.
Et à la culture, quelqu'un qui se connaît sur ce sujet. Bon.
Et le contre-pied a été pris ensuite au moment de la libération, mais vraiment le contre-pied.
Le contraire.
Si je prends le plus con. En tout cas, le plus incompétent. Non, je déconne.
Non,
le mec qui n'y connaît rien. Ouais. Et parce qu'il n'y connaît rien, alors il pourrait tout.
Ouais, c'est un peu l'œil neuf. C'est un peu nos ministres, ça.
c'est comme ça qu'on forme des gouvernements.
Le gouvernement, qu'est-ce que tu sais faire? Ça, ah bon, toi, tu feras pas ça. Qu'est-ce que tu sais pas faire, ça? Oh putain, tu vas faire ça.
Je porte un regard neuf.
Oui. Enfin, maintenant, attendez, vous avez remarqué que depuis quelque temps, dans les gouvernements, comment on fait attention à certains postes. On pense aux finances. À la mairie de Montpellier, c'est pareil. On a quand même confié les finances à quelqu'un qui s'y connaît.
C'est le côté pétillant. Sinistre de Hollande,
Macron aussi.
Justement. Un ancien de chez Rothschild qui se retrouve ministre des Finances. Ça, c'est du pétillisme, c'est de la technocratie.
Il sait ce qui, de quoi, de
c'est
quoi
de la technocratie.
Voilà. Et à la mairie de Montpellier aussi, quand même. L'adjoint numéro 3, c'est bien ce que je dis, quand il s'y connaît un petit peu, quand même, non? Max Lievita, je sais pas, il s'y connaît.
Il s'y connaît à l'usage. À l'usage, parce qu'à la base, il est prof d'éco. Alors, si un prof d'éco s'y connaissait en finance, ça se saurait du côté de Grabel.
Oh là là, attention pour ceux qui...
Vous savez, Grabel, c'est l'arrière-cuisine de MMM.
Bon, alors, on va bientôt terminer cette émission, on arrive à la fin. Alors, la semaine prochaine, je crois que là, justement, partant de la culture, on va passer au tourisme. C'est bien ça, je ne me trompe pas. La semaine prochaine, on va aller vers le tourisme de notre MMM.
Ah oui, et là, il faudra utiliser la culture.
Ah bah voilà, oui, donc tout s'enchaîne, tout s'enchaîne.
Qui n'a pas utilisé la culture, et, voilà. Et je, et je coup, c'est un ancien prof.
Et je crois, si je, mes informations sont exactes, je crois que lundi dernier, dans une émission qui passe de midi à 13h...
À la cause de MMM.
Je crois que Yves-Marie Le Bozec a reçu lundi dernier donc une adjointe de la municipalité de Montpellier qui, elle, s'occupe de la sécurité.
Oui, d'ailleurs, elle m'a fait peur. Ouh là là.
Ah bah écoutez, mon cher, il faut faire attention parce à que qui un Corse en invite. Hein.
Un Corse ou une Corse qui s'occupe de la sécurité, ça fait penser à Vidocq, moi.
Allez, à la semaine prochaine. Donc, on parlera tourisme.
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?